Merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ma communication bien s'inscrit dans cet héritage qu'évoquait à l'instant Gilles Pécoux, puisque nous nous transportons d'un siècle quasiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les dirigeants français et italiens se complaisent à évoquer des relations amicales entre les deux pays. Or, force est de constater que qu'entre la France et l'Italie, il s'agit à cette époque-là d'une amitié difficile, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'entretien entre Gilles Martinet, qui était ambassadeur de France à Rome, et Sergio Romano. Alors certes, la conférence de Santa Margherita en février 1951, donc à la suite du traité de paix de 1947, vient sceller un rapprochement bilatéral par l'instauration d'un principe de consultation entre les deux pays. Parallèlement, la France participe activement à la réinsertion internationale de l'Italie en favorisant son entrée à l'ONU, mais aussi au sein de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Cette solidarité, cette interdépendance multilatérale est renforcée en outre par la participation active des deux pays au processus de construction européenne qui aboutit, vous le savez, à la signature du traité de Rome en mars 1957. Dans le même temps, les échanges économiques se développent malgré l'échec d'union douanière entre les deux pays, tandis que les contacts culturels s'accroissent par la présence toujours importante d'émigrés italiens en France, par le décollage du tourisme français en Italie, ou encore par la plus grande pénétration de la culture italienne en France, notamment la littérature ou encore le cinéma que connaît bien Jean Giry. Il en demeure pas moins que la politique de puissance française, qui, à l'époque du général de Gaulle, deviendra une politique de grandeur, cette politique de puissance, confrontée à la volonté italienne de retrouver une place de choix sur la scène internationale, suscite quelques frottements. Quelques frottements sur les questions atlantiques, quelques frottements sur les questions européennes, mais aussi sur les questions méditerranéennes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique de la France consiste à réaffirmer son statut de puissance méditerranéenne dominante. Et dès le mois de novembre 1944, le général de Gaulle définit l'orientation générale et les implications de cette politique. Je le cite, « C'est là qu'est apparue, au moment de notre pire détresse, l'hostilité ambitieuse de l'Italie. Nous entendons qu'il soit fait en sorte qu'une telle agression, profondément contraire d'ailleurs à la nature des choses et désastreuse pour l'Italie, ne puisse jamais se renouveler. » Dans un contexte marqué par la montée des nationalismes arabes, la France, puissance coloniale, entend obtenir donc de l'Italie un soutien sans faille au nom notamment de la solidarité atlantique. Du côté italien, la perte des colonies, justement, conduit à redéfinir ses rapports avec le monde arabe. L'effondrement d'ailleurs du paradigme colonial ne lui confère plus la possibilité de peser directement sur ces pays nouvellement indépendants, mais les dirigeants italiens entendent quand même maintenir et développer une influence qui se fera désormais plus sur le mode de l'inflexion, plus que sur le mode de l'imposition désormais révolue. L'Italie doit donc renoncer, comme Gilles le disait il y a quelques instants, à toute politique, une nouvelle fois, à toute politique de puissance. Et au cours de l'année 1950, un diplomate italien en poste à Paris suggère au comte Sforza, qui est alors ministre des Affaires étrangères, au sein du gouvernement de Gasperi, il lui suggère que dans ces conditions, je le cite, « notre politique arabe devrait être de ne pas en avoir ». Dès lors, les Italiens s'emploient à mener, je reprends le terme ici de Bruna Bagnato, une politique souterraine qui se déploie dans le domaine économique et culturel, et les deux d'ailleurs étant étroitement liés. Alors pour ce faire, ils disposent des instruments, des relais traditionnels. Je pense notamment à la société Dante Alighieri, qui dès 1889, dès son origine, est très orientée par l'encadrement des colonies de migrants à l'étranger et, Gilles Pécoux le rappelait, en Méditerranée. Donc c'est installé en Méditerranée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Dante Alighieri est intégrée au dispositif culturel italien. Le gouvernement lui verse d'importantes subventions. Et parallèlement, la diplomatie culturelle italienne qui se structure au sein d'une direction générale, au ministère des Affaires étrangères, eh bien, cette diplomatie culturelle s'appuie sur des instituts culturels qui sont fondés à Beyrouth, à Tripoli, à Alger, au Caire, à Tunis, hein, et s'effectue une sorte de partage des tâches entre ces instituts et la Dante Alighieri. Hein. Ainsi, dans les endroits où il n'y a pas d'institut culturel, eh bien, la Dante Alighieri se voit chargée d'un certain nombre de ses missions, notamment dans le domaine de l'enseignement de la langue italienne. Et lorsque coexiste hein, dans la même ville un institut culturel et une section de la Dante Alighieri, eh bien, il est préconisé que le directeur de l'institut assure aussi la direction du comité. On pourrait aussi noter au rang justement de ces instruments traditionnels de la diplomatie culturelle l'archéologie dont il a été question tout à l'heure, et notamment eh bien, une action volontariste hein, des Italiens pour s'implanter en Libye, en Tunisie, ce qui est vu d'ailleurs à l'époque par leurs collègues français, notamment au sein de l'École française de Rome, hein, comme une sérieuse concurrence à un moment hein, où eh bien, le processus de décolonisation fragilise la position des archéologues français. Au-delà de ces aspects, je dirais, classiques, dans les années 1950, au nom justement de l'idée que l'Italie, d'un passé colonial, pardon, au visage plus humain, hein, italiani, ravagente, et sur une affirmation très appuyée aussi du désintérêt colonial de l'Italie, hein, qui tranche fortement avec les positions françaises à l'époque, eh bien, se déploie toute une série d'initiatives, se mettent en place un certain nombre d'organismes qui visent eh bien, à donner du corps à, là aussi, une idée qui est souvent reprise à l'époque, eh bien, qui est de faire de l'Italie un pont entre l'Orient et l'Occident, et cela par la définition bien, d'une culture commune transméditerranéenne. Alors ces structures, elles sont nombreuses, je vais y revenir dans quelques instants. Vu de Paris et du Palais Farnèse, cette politique hein, à destination des pays arabes est considérée comme le résultat d'une action concertée dans les domaines politiques, économiques et culturels d'une frange précise de la démocratie chrétienne dont les membres sont qualifiés, non sans ironie, hein, de « démo-musulmans » par les diplomates français. Alors, parmi ces structures soutenues hein, par le gouvernement, il y a le Centro per le Relazioni Italo-Arabe, qui est fondé à Rome en mars 1952 au sein de l'Institut pour l'Orient, et c'est un exemple éclairant, puisque effectivement, c'est un projet qui est porté par l'action concertée d'intellectuels, de diplomates, d'hommes politiques, et je pense notamment à Paolo Emilio Taviani, aux affaires étrangères, tous appartenant au milieu catholique. Il s'agit, hein, au travers de ce Centre pour les relations italo-arabes, de comprendre pour être compris, hein, selon la formule d'Enrico Insabato, qui est le directeur de ce centre, qui dispose d'une revue, la revue Levante, hein, qui est une traduction concrète hein, de cette ambition, puisque la revue est à la fois en italien et en langue arabe. Au-delà donc des activités propres qui structurent habituellement un centre culturel, le Centre pour les relations italo-arabes est appelé par le gouvernement, de manière plus singulière, à coordonner et à promouvoir toutes les initiatives culturelles italiennes à destination de la Méditerranée. Alors parmi ces initiatives, je voudrais attirer votre attention sur une qui est particulièrement intéressante, c'est l'Académie de la Méditerranée. L'Académie de la Méditerranée, donc, qui mobilise des élites intellectuelles, politiques, économiques, qui œuvre donc pour cette culture transméditerranéenne commune, notamment autour du concept de d'Eurafrique, hein, qui est réactualisé à ce moment-là. Le profil des académiciens est intéressant puisqu'il témoigne d'une forte identité intellectuelle et idéologique, à la fois, enfin, à la confluence, pardon, de l'académisme, du méridionalisme, du conservatisme et, d'une certaine manière, du colonialisme aussi. Le président de cette académie est Gianfranco Aliata, prince de Montréal, hein, qui symbolise bien cette dimension méridionale, hein, avec un fort accent insulaire, et la tonalité hein, politique aussi du projet, puisqu'il est député monarchiste de la circonscription de Palerme. La présence parmi les académiciens, de Raffaele Ciasca, hein, c'est historien bien connu du monde colonial, mais aussi sénateur démocrate chrétien, élargit hein, l'arc politique. Chiasca, qui est d'ailleurs le président de l'Institut pour l'Orient. Il est encore plus significatif de voir parmi les académiciens d'honneur le chef du gouvernement, De Gasperi, aux côtés de deux membres de son gouvernement, hein, et figures de la démocratie chrétienne, Giulio Andreotti et Paolo Emilio Taviani. Alors, cette académie n'est pas financée par l'État italien, mais elle peut se prévaloir de sa bienveillance. En revanche, elle bénéficie du soutien à la fois politique et financier du président démocrate chrétien de la région sicilienne, Franco Restivo. La région sicilienne qui joue d'ailleurs un rôle extrêmement important, qui tente de coordonner aussi de son côté des initiatives avec le soutien de la Banco di Sicilia et en créant le Centre pour la coopération méditerranéenne, Centro per la cooperazione mediterranea, et qui dispose d'une revue, elle aussi, la Collaborazione Mediterranea, et qui organise en mars 1953 le premier congrès international d'études et d'échanges méditerranéens à Palerme, congrès inauguré encore une fois par Taviani et présidé par Gaspare Ambrosini, président de la commission des affaires étrangères à la Chambre des députés. Alors au cours de ces colloques, au fil de ces revues, est développée donc l'idée, qui n'est pas nouvelle, Gilles Pécou l'a dit à l'instant, d'une tradition pluriséculaire de l'Italie au dialogue interculturel en Méditerranée. Pour Raffaele Chiasca, l'Italie fut toujours un point de rencontre entre les civilisations orientales et occidentales. Au-delà effectivement de l'évocation de la romanité, c'est le Moyen-Âge qui est élevé en véritable paradigme, et en particulier la situation d'interculturalité du sud de l'Italie et de la Sicile, tandis que le projet, lui, est encore une fois leur Afrique qui doit constituer un rempart au communisme, dans ce contexte de guerre froide, en vertu des valeurs spirituelles partagées entre le christianisme et l'islam. C'est également cet aspect qui préside aux initiatives de Giorgio La Pira, comme celle que je viens d'évoquer, initiative regardée, observée avec une certaine suspicion du côté français. La Pira organise depuis 1952 une réunion annuelle de personnalités provenant de divers horizons afin de favoriser la compréhension et le rapprochement des peuples. En octobre 1958, il organise le premier colloque méditerranéen avec des représentants chrétiens, musulmans, israélites. Or, du côté français, plusieurs indices laissent à penser qu'il s'agit là d'une diplomatie officieuse envers le FLN. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie. La participation au comité d'organisation de la revue française Études méditerranéennes, que vous connaissez sans doute, connue pour son orientation très défavorable à la politique du gouvernement français en Algérie, eh bien, renforce les suspicions qui vont d'ailleurs se vérifier, puisque effectivement, à Florence, se déplacent deux représentants du FLN, ce qui conduit au retrait de la délégation officielle française, et non pas d'autres, sont présents à Florence, je cite quelques noms, des connus évidemment, Jacques Berck, Charles-André Julien, Louis Massignon, le théologien Jean Danielou, qui participent aux travaux, des travaux qui sont inaugurés devant 27 ambassadeurs, en présence du président de la République, Giovanni Gronchi, du président du Conseil, Amintore Fanfani, qui sont tous deux au passage considérés par l'ambassade comme des démos musulmans. Et du côté français, cette manifestation a une résonance aussi dans l'opinion publique. Le Monde, le journal Le Monde, évoque un incident diplomatique franco-italien. Et il y a toute une partie de la presse française qui tend à dramatiser l'événement. Paris Presse évoque le fait que M. Fanfani a dupé les Français. On a assisté à une série d'attaques acrimonieuse et violente contre la France et à une manœuvre diplomatique de l'Italie pour se créer un nouveau rôle, celui de médiatrice des conflits méditerranéens. Et effectivement, cet épisode est très mal perçu. Or, cet épisode est intéressant. Pourquoi ? Parce que ici se confondent diplomatie culturelle et enjeux politiques et diplomatie plus classique dans ce contexte donc de sensibilité exacerbée du côté français de la guerre d'Algérie. Pour conclure, pour ne pas être trop long, quel bilan tout d'abord pour l'Italie, quel bilan de cette offensive culturelle méditerranéenne, relativement faible. sur le plan politique, je n'ai pas le temps ici de développer. En revanche, plus intéressant sur le plan économique et commercial, et également énergétique, hein, notamment avec une présence en sous-main, en filigrane, hein, d'une personnalité bien connue. Il s'agit d'Enrico Mattei, hein, qui va financer un certain nombre de ces opérations et qui va en retirer effectivement quelques bénéfices. Du côté français, si vous permettez cette trivialité, plus de peur que de mal. Les Italiens n'ont guère bousculé les positions françaises en Méditerranée. Plus intéressant aussi, et je terminerai de la même manière en quelque sorte que Gilles Pécou, hein, au-delà de ce contexte particulier, donc lié à la décolonisation et à la guerre froide, finalement les initiatives italiennes vont parvenir à obtenir un écho dans les milieux culturels français, puis dans les milieux politiques, une fois justement le temps de la colonisation révolu, le temps de la guerre froide révolu, et ouvrant ainsi, me semble-t-il, la voie au processus de partenariat méditerranéen que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie.